RCF. Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 14e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Ternay, également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+. Rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre le Tarn, l'Aude et le Piémont des Alpes, ils ont une fois de plus répondu à l'appel. J'en profite, préséance oblige, j'en profite pour accueillir tout d'abord notre vénérable préféré, monsieur Christian Mosna. Bonjour Christian.
Bonjour à tous et à toutes.
Au pied des Alpes, Fred Protin est toujours fidèle au rendez-vous. On en est ravis. Salut Fred.
Bonjour Patrick et bonjour à toutes et à tous.
Un grand plaisir, celui de retrouver le Mozart de la cornemuse, monsieur Luc Fuentes. Bonjour Luc.
Et bonjour, et le plaisir est partagé.
Et enfin, Christian Guittard, tout juste rentré de Cracovie, nous fait l'honneur de sa présence. Salut Christian.
Salut Patrick et bonjour à tous.
Et enfin, pour mettre un nom de cette émission, c'est GG au doigt de fée, monsieur Jérôme Boson, qui sera aux manettes.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Au menu de la table de Côté Ouvert aujourd'hui, on va forcément revenir sur, même s'il y a quelques jours de débours, on va revenir sur la défaite des Bleus en Irlande avant de préparer bien sûr cette réception de l'Écosse au Stade de France, de tous les dangers. Puis on parlera aussi un petit peu Pro D2 parce que maintenant, à moins de 10 journées de la fin du championnat de Pro D2, on va se pencher sur la fameuse course au maintien. Même si ça a quelques jours, effectivement, on va faire un petit retour sur la deuxième journée du tournoi des Six Nations, puis on parlera aussi du programme de cette troisième journée. Je vous rappelle que la France s'est inclinée 32-19 en Irlande, l'Écosse a laminé le pays de Galles 35-7, et l'Italie n'a pas pesé bien lourd face à l'Angleterre 31-14. Ce qui nous donne globalement au classement la chose suivante après deux journées de tournoi des Six Nations. L'Irlande 10 points en tête à égalité avec l'Écosse, deux matchs avec victoire bonifiée à la clé s'il vous plaît. Les Anglais 3e 6 points, les Français 5 points 4e, l'Italie un petit point 5e et des Gallois Fanny qui ferment la marche. Et ce week-end donc le tournoi est de retour, le programme est le suivant: les Irlandais se déplacent en Italie samedi à 15h15, deux heures plus tard vous aurez le plaisir d'assister à un Pays de Galles Angleterre, et surtout dimanche 16h, ne loupez pas France-Écosse qui vaudra sûrement le détour. Allez, en préparant l'émission avec Jérôme, on s'est posé la question: est-ce qu'on garde la vraie Marseillaise ou est-ce qu'on met la Marseillaise au cas où? Et on s'est dit non, quand même, après seulement un faux pas des Bleus, on peut conserver la vraie Marseillaise. Messieurs, je vous lance tout de suite dans le bain. L'équipe de France a pris une leçon d'efficacité en Irlande. Tiens, Luc, puisque tu es de retour, c'est pour toi. Leçon d'efficacité?
Oui, je vous trouve quand même assez sévère, toi et Jérôme, parce que je pense qu'on a eu déjà un très, très beau match de rugby. À la différence de ce France-Afrique du Sud où on a été sur des impacts très durs, quasiment de la violence, là on a été sur vraiment un match de rugby malgré la puissance des Irlandais. Par contre, effectivement, sur notre deuxième mi-temps a été un peu plus compliqué, notamment physiquement. Voilà, donc là-dessus on peut dire qu'effectivement l'efficacité irlandaise a été de mise par rapport aux Français. On parle souvent des seconds rideaux qui doivent finir le match, les finisseurs, et ben là je trouve que les finisseurs irlandais ont amené une plus-value. Enfin, je veux dire, Sexton, il peut commencer à remplir les papiers pour la retraite, parce que je sais plus le nom de celui qui l'a remplacé, mais il a envoyé du bois, hein, voilà. Donc oui, le son d'efficacité, mais quand même on va relativiser, on jouait contre les meilleurs du monde, hein. Donc, et on a tenu la dragée haute, allez, on va dire une soixantaine de minutes intéressantes.
Fred, confirmation, cette équipe d'Irlande, elle est vraiment actuellement celle qui est numéro 1 au classement de World Rugby. C'est quand même une très 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 belle équipe, très complète surtout.
Ouais, c'est du très lourd. C'est vraiment l'équipe phare du moment et je dirais même au niveau mondial. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a un jeu vraiment très, très pragmatique, très léché, très physique. Mais ça joue bien. C'est pas du rentre-dedans comme l'a souligné Luc avec l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui, dont les joueurs se trouvent à tout instant du terrain, quelle que soit l'action, il y a toujours du soutien, il y a toujours un joueur lancé qui vient dans l'intervalle, il pourrait presque jouer les yeux fermés, les ballons pourraient circuler sans problème. Donc, la France a reçu une leçon d'efficacité, ça c'est clair, mais surtout, on a vu une France émoussée, fatiguée, avec des joueurs qu'on ne revoit pas du tout, Aldrit pas vu, Marchand pas vu. Paul Willemse, on ne sait pas où il est. La charnière, bof, aux abonnés absents. Bon, je suis un peu sévère, mais c'est le constat aujourd'hui. Hein, on n'a pas une France qui brille comme on l'avait vu en 2021 contre les All Blacks. Là, on est dans du rugby, moi qui m'agace un peu avec cette dépossession. On ne tient pas le ballon, on ne fait plus de relance. Donc, il va falloir changer des choses, à mon avis. Autrement, on va à la catastrophe.
Monsieur Mosnala, on fait un peu les sales gosses, pardon, on a tellement été habitué à des choses de qualité, mais quand même, il a pas tort, Fred, dans son constat. On est resté un peu sur notre fait, même si ça a été un match, je sais pas ce que vous en avez pensé, de très haut niveau. Et ça, on peut pas le nier.
Ouais, ça on peut pas l'enlever. Il y a eu un 46 minutes, je crois, de temps de jeu.
C'est
C'est un
énorme,
truc
hein.
de fou. C'est du jamais vu au rugby mondial. C'était la vraie finale du tournoi. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ben, on avait à peu près tous les joueurs. Je ne vois pas qui pourrait apporter une plus-value supplémentaire à l'équipe qu'on a aujourd'hui. C'est un petit peu ce qui me fait faire des soucis pour la coupe en vue de la Coupe du Monde, parce que bon, faut savoir que les Irlandais, il leur manquait quand même Furlong, qui est certainement le meilleur droitier au monde, qui ne jouait pas. Ils arrivent à faire tourner, comme disait Fred, les remplaçants rentrent, ça porte à chaque fois une plus-value. Nous, la plus-value, elle a été assez médiocre. Ouais, je sais pas, je les ai trouvés très émoussés, nos Français. Peut-être pas à leur vrai niveau, j'espère que c'est qu'un accident.
Christian, l'autre. Alors justement, anecdotiquement, cette défaite, elle met fin à une série de 14 victoires consécutives. C'est quand même un beau record qui était en cours du côté des Français. Alors est-ce que c'est une simple fin de série, cette défaite, et donc on va repartir sur d'autres bases, ou peut-être quelque part des prémices ou des symptômes de difficultés un peu plus importantes. C'est vrai que je rejoins Fred et Christian qui parlent de bleu que j'ai moi aussi trouvé émoussé, pour certains d'entre eux en tout cas.
C'est pour ça que je pense pas que ça soit les prémices de quelque chose, mais c'est plutôt le constat de quelque chose. Et le constat, c'est que notre championnat, il use considérablement les joueurs, que ça leur permet pas de développer un rugby. On joue, je crois, une trentaine de minutes, donc un rugby qui est probablement pas adapté à l'international. Et je crois que c'est ça le constat. Moi, j'en ai vu un deuxième. C'est que le jeu, tu parlais tout à l'heure, Fred, de dépossession, mais justement, là, Galtier nous avait annoncé plutôt
De la
une
proposition.
reconquête de la possession, voilà.
Une
Et
reposition.
c'est ça, ouais. Et ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu véritablement. Alors, parce que la faute aux Irlandais, d'une part, mais ça veut dire aussi que on passe pas de l'un à l'autre comme ça. Quand on a un plan de jeu, c'est pas facile de le changer. Et puis le troisième point aussi, moi, que j'ai trouvé, c'était qu'il était difficile de trouver des remplaçants. Et là, c'est Christian, tu disais qu'on était presque au complet, mais vous l'avez souligné, Willemse pas en forme, ça peut arriver dans une saison, hein, parce qu'elles sont longues et dures. Ben, qui derrière? Et c'est une vraie question au final aujourd'hui. On n'a
Ça sera pas
pas
mal à fou, hein.
et ça sera pas mis à fou malgré une jurisprudence qui semblait lui permettre de revenir là.
Non.
Mais pareil pour la pour le poste de Moefana, parce que Moefana il a manqué terriblement d'anti, je pense, sur un
Il y a
match comme
Dante qui
ça.
revient, oui.
Ah, et voilà, qui va revenir, mais du coup, il peut se blesser, ça peut arriver. Bref, là où on pensait une profondeur vraiment conséquente, finalement, c'est peut-être pas si certain que ça. Et L'inquiétude pour moi, c'est plutôt celle-là, tu sais, cette profondeur d'effectif, parce qu'on voit bien que quand même Galtier est très conservateur dans ses choix, et on l'a vu sur le changement Jalibert au profit de Ramos plutôt que de Ntamack, quoi.
Ouais. Alors justement, là, sur ce que vous êtes en train de dénoncer, des joueurs qu'on trouve en dedans, ça fait partie peut-être des fragilités que vous avez identifiées sur ce match. Est-ce qu'une fois de plus, on n'a pas voulu faire revenir certains joueurs trop tôt, c'est-à-dire qu'ils avaient été blessés, ils n'ont pas forcément repris la caisse nécessaire en championnat, même si le championnat use à Christian, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'on n'a pas fait revenir un Willemse trop tôt, un Ntamack peut-être un peu trop tôt, avec pas assez de rugby dans les Guibolles, Luc?
Oui, probablement. Alors, moi, j'allais vous interroger sur quelque chose parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est. Oui, mais en fait, ça rejoint la tienne. En fait, c'est pour ça. C'est est-ce que déjà nos joueurs n'ont pas la Coupe du Monde dans la tête? Bon, ça, on a un peu la réponse. Je pense que oui. J'espère que oui. Et donc, la peur de la blessure, longue, grave. Est-ce que ça vient pas un petit peu aller amoindrir, on va dire, et donc du coup ça rejoint ce que tu dis, est-ce que c'est pas du coup une fragilité psychologique qui viendrait se surenchérir par rapport à déjà une fatigue physique qui pour moi est quand même réelle, parce qu'on dit à peu près tous la même chose, hein, c'est dur le championnat, c'est long, voilà. Donc je posais cette question là, qu'en pensez-vous messieurs? Pardon, Patrick.
Docteur Mosner, fatigue psychologique aussi, ou en tout cas peut-être
Oui, parce que le problème, c'est qu'en top 14, ce sont des joueurs qui sont très sollicités par leurs différents clubs, ce qui fait qu'il n'y a pas de plage de récupération. Les provinces irlandaises jouent quand même un championnat qui est beaucoup plus facile, pour ne pas, je ne veux pas les dévaluer leur victoire, mais ça aide quand même aussi. C'est un mal récurrent, on a un championnat qui est tellement attractif qu'il est énergivore pour nos joueurs. Et je vois pas de solution, quoi. Alors peut-être qu'après, à la fin du championnat, pour la préparation pré-Coupe du Monde, on aura plus de temps pour travailler, peut-être qu'on sera plus frais. Mais sur le tournoi, je ne vois pas finir très très bien ce tournoi 2022-2023, quoi.
Fred, tu as identifié toi d'autres fragilités sur ce 15 de France version 2023?
Non, mais on l'a dit, de toute façon, les joueurs ont besoin de repos. Le top 14 demande beaucoup. Les joueurs jouent en Coupe d'Europe, dont le niveau est très proche du tournoi. Oui, donc, Dupont, il joue trop. Il faut absolument que ce joueur se repose. Et pourquoi, justement, ne pas faire jouer ce tournoi, finalement, il sert de préparation. Donc, s'il sert de préparation, eh bien, Dupont, on peut le mettre de côté de temps en temps. Et puis faire jouer Maxime Lucu ou le Garec, voir d'autres solutions. Ça, c'est, on a un excellent moment, moi je trouve en tout cas, pour faire tourner, et il ne faut pas hésiter à faire tourner, mettre la politique de Galtier, c'est de mettre 42 joueurs dans le circuit, et bien il faut les mettre dans le circuit, et pas tourner avec la même équipe. On a des joueurs fatigués.
Non, voilà. Mais c'est surprenant, pour rebondir sur ce que tu dis, Fred, c'est qu'il y a un groupe de 42, il y a une convention qui a été passée, on sait que c'est tout pas simple hein, avec la LNR. Donc au final, on ne puise pas tellement dans ces 42, puisqu'on retourne toujours.
Non, parce qu'on renvoie toujours les mêmes. Et donc, il faut faire jouer d'autres joueurs. Et même si on perd le tournoi, c'est pas un problème, ça.
Après, donc, Galtier nous a expliqué que Galtier nous a expliqué qu'il voulait arriver avec un certain nombre de sélections précises. Hein. Ouais. Il a un chiffre en tête et donc l'idée c'est d'arriver avec un groupe qui a, je crois, une trentaine de sélections. Je crois que c'était le chiffre qui était annoncé à peu près.
Pour arriver à la Coupe du Monde. Donc.
Oui, oui, non, mais on est d'accord. Mais ce qui explique pourquoi il fait tourner un petit peu sur ces mêmes joueurs. Et moi, je suis comme toi, je comprends pas tellement de faire monter et repartir des types qui, au final, vont pas du tout jouer, alors que là, on est dans une phase où il faut être frais et on sait que c'est pas un championnat en Coupe d'Europe tel que c'est constitué qui pourront trouver cette fraîcheur.
Et puis, moi, je ne comprends pas pourquoi on met Jalibert en 15 alors que c'est clairement pas son poste, il faut le faire jouer en 10. Mais et puis, pourquoi on le met pas en début de match? Romain Ntamack, j'ai rien contre lui, hein, mais en ce moment il n'est pas dans son assiette. Bon, et c'est pas le critiquer pour critiquer.
Non, bien sûr.
C'est des joueurs qui ont besoin de repos.
Alors justement, moi je pose une question volontairement un peu provocatrice. Est-ce que pour le match de samedi, il y a des joueurs que vous voyez entre guillemets menacés, au sens où peut-être on les mettra sur le banc pour se reposer, et est-ce qu'il y a des permutations que vous envisagez, ou vous pensez qu'au contraire Galtier veut suivre sa route et ce qu'il a tracé, c'est-à-dire qu'il ne il ne remettra pas en cause ses choix de compo, c'est-à-dire par exemple un Ntamack qu'on va revoir avec Dupont à la charnière. Luc.
Ntamack est le plus ciblé, hein, on l'entend bien dans les discours. Ouais. Alors moi par contre, je trouvais intéressant que Ramos a fait un début de saison en numéro 10, hein, et je trouvais intéressant justement de la polyvalence de ce jeune homme, de pouvoir un petit peu le faire monter, de reposer Ntamack du coup. Une possibilité. Après, je pense que dans la compo, ça va être compliqué pour des jeunes, pour Aldrit. Oui, il y a Willem C aussi, effectivement, il y a Willem C que je trouve très 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 en dedans, mais bon, après je sais pas, il a besoin des Toulousains de toute façon, pas mal de Toulousains, donc bon, c'est un peu compliqué.
Dans ces cas-là, si on se pose la question de la compo, il y a quelqu'un qui va manquer à droite, c'est Winnie Antonio. Qui à droite, Falatea sans problème, Christian?
Oui, moi j'essayerai la Kaya parce que Falatea m'a pas encore bien convaincu. Je ferai une tentative avec la Kaya qui
dans le grand bain direct.
Pro D2 à Oyon. Peut-être sur le banc pour démarrer, mais je le garderai pour vraiment le. Parce que si on veut l'amener à la Coupe du Monde, Uli Antonio, je trouve qu'il a beaucoup joué. C'est un garçon qui commence à s'user physiquement. De par sa masse physique, c'est difficile pour lui d'être tout le temps au top. Donc ce serait bien de le faire un petit peu reposer. Bon, là, il va y être. De facto par rapport à sa suspension, hein, mais finalement c'est peut-être un mal pour un bien, en tout cas pour Antonio. Et moi je tenterai la Kaya tout de suite là, ouais, même titulaire.
C'est le moment fort.
Et si on parlait un petit peu, Jérôme, de nos adversaires? Et je vais vous donner une exclue côté ouvert. Si vous êtes attentif et vous êtes à l'heure, un peu avant le coup d'envoi ce dimanche de ce France-Écosse, en kilt, au milieu de la pelouse du Stade de France, vous verrez Luc Fuentes et sa cornemuse qui va jouer justement cette hymne écossais avec un énorme autocollant RCF sur la bouteille. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Bon,
c'est grandiose.
Une question, Fred. Pourquoi l'équipe de France doit-elle craindre l'Écosse dimanche? Est-ce qu'on a des raisons d'être craintif de cette équipe d'Écosse?
On va souffrir terriblement parce que les Écossais ont quand même battu largement les Gallois sur un jeu de rapidité, sur un jeu de passe, sur un jeu où les ballons circulent très vite. Ils ont battu les Anglais en Angleterre en produisant un jeu de très haute qualité. Donc là, on va encore tomber sur une équipe extrêmement joueuse qui est vive, donc ça va aller très vite. Ça risque de monter en temps de jeu, un temps de jeu qui sera sans doute très important. Et si on a encore des joueurs fatigués, eh bien, on va souffrir.
Monsieur Guittard, quelle réaction doit mettre en œuvre l'équipe de France? C'est-à-dire à quel genre de match faut-il s'attendre? La dépossession, la repossession, la semi-possession, qu'est-ce qu'il va falloir faire là?
Je pense que déjà Galtier va mettre directement son équipe type, ce qui répond en partie à la question de Frédé, parce que là il a besoin de retrouver la confiance. Ça serait envoyer un signal curieux qu'après une défaite on vire un joueur, puisque c'est absolument pas ce qu'il veut. Donc je pense qu'on va retrouver les mêmes joueurs, et avec le risque que Fred évoque, c'est-à-dire d'avoir des joueurs fatigué, et je pense que c'est un peu curieux de vouloir changer de mode de jeu, de plan de jeu à en étant si proche de la coupe du monde. Voilà, c'est un petit peu moi mon sujet d'inquiétude pour la Coupe du Monde, parce que contre les Écossais, je pense que la France est quand même solide pour les tenir en défense.
Monsieur Fuentes, 30 secondes pour balayer ce sujet. Quelle stratégie pour toi tu es dans la tête de Fabien Galtier?
Ah, flûte. Moi, j'aurais été dans la tête des Écossais. Moi, ça m'aurait beaucoup plu. Mais en fait, c'est pas grave. la nouvelle donne, et ça n'a pas été cité, la nouvelle donne, c'est que les Écossais faisaient beaucoup de fautes, notamment sur les molles, dans le grattage de ballon. Ils venaient un petit peu pourrir tout ça. Et qu'aujourd'hui, ils ne le font plus, ce genre de fautes-là. Donc, au niveau de la discipline, c'est un petit peu mieux. Donc, je pense qu'il va falloir les avoir un petit peu devant, parce que ça reste un petit peu la faiblesse de l'Écosse, qui aime ce jeu de vitesse. vitesse et surtout bloquer le numéro 10, Phil Russell, qui est en ce moment sur un nuage. Voilà, tout ce qu'il fait, il le réussit. Enfin, je veux dire, le dernier match, quel match en tout cas de l'Écosse. Et effectivement, match devant, les enfoncer un petit peu devant pour pouvoir mettre un peu la vitesse et les faire douter un petit peu peut-être. Après, si on a un Phil Russell qui est dedans, parce qu'il s'est pris 2-3 bouchons et tout ça, ça risque de changer un peu la donne.
Bien, mais écoute, on va rester sur cette analyse tout à fait fine et pertinente. Et puis nous, je vous propose pour les quelques minutes qui nous restent d'aller faire un petit tour en Pro D2 parce qu'on va jouer le maintien. Et oui, il ne reste plus que 9 rencontres à disputer en Pro D2. Alors en haut du tableau, pour nos 5 dernières minutes, Jérôme me fait un petit signe. En haut du tableau, on sait que Oyo, après 2 contre-performances, a repris sa marche en avant. Ils ont déjà 79 points au compteur. Ils ont 20 points d'avance sur le second Mont-de-Marsan. Et par contre, en bas, ben, c'est la lutte pour le maintien. Et ma question toute bête, qui dans la charrette, bon, on va être honnête, il y a quand même clairement au moins quatre équipes qui sont concernées par cette lutte pour le maintien. Massy, qui malgré une grosse combativité est quand même à moins 20 au Brita Bonus, et ça me semble déjà rédhibitoire. Et ensuite, on a Soyaux Angoulême, on a Carcas, on a Montauban, et peut-être même, messieurs, on a Rouen. Tiens, Christian Mosna, toi, je sais que tu es un amoureux des chiffres, tu suis ça avec passion. Pour toi, le maintien, il va se jouer à combien cette saison? 50, 52, 55, on va être à combien de points à peu près?
Aux alentours de 53 ou 54. Et donc, je voulais revenir sur... bon, j'ai fait une petite analyse. Pour moi, les Massicois sont malheureusement condamnés parce qu'ils n'auront que 3 matchs à domicile et en plus 3 gros, Agen, Grenoble et Oyo.
Ouais.
Et ils se déplacent 6 fois. 6 fois. Hein. Donc, je ne vois pas comment cette équipe peut s'en sortir. Donc, on peut malheureusement les considérer comme... presque condamné, même si mathématiquement tout est possible. Donc ça va se jouer entre Carcas, Soyaux et nos voisins montalbanais.
Et pas Rouen, toi tu vois pas là, Rouen
Non, parce que Rouen bon, a déjà 4 points d'avance et ils ont un calendrier qui est pas c'est si ça. Difficile que celui de Carcas ou de Montauban et Soyaux, qui sont vraiment sur des calendriers très compliqués, les trois. Hein, les trois.
Ouais.
Carcassonne a 5 matchs à domicile, Soyaux, pareil, Montauban en a 4 à domicile. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui va sortir de là, mais ça va être une bagarre, je crois, jusqu'à la dernière journée.
Monsieur Guittard, la semaine prochaine, je pense qu'avec ton compère Luc Fuentes et peut-être avec Joël Randé, vous serez à Domecq, une fois de plus. C'est la machine Oyonnax qui débarque. Et là, ça pourrait changer un petit peu la donne, parce que je crois que Carcas, pour l'instant, est à moins 4 ou moins 5 au Brita Bonus. Mais si tu perds et la cinquième défaite à domicile, tu passerais de moins 5 à moins 9. Et là, tu passerais potentiellement en zone presque rouge. Là.
Non, mais le seul espoir des Carcassonnais, c'est l'avance considérable que Oyonnax a, et on peut peut-être espérer, parce que je crois qu'on en est là, qu'Oyonnax vienne pas peut-être avec son équipe type, n'ait pas toutes les ambitions nécessaires pour ce déplacement, parce qu'il n'a pas besoin de ce déplacement, parce que comme Christian Mosna l'a bien dit, le calendrier de Carcassonne est vraiment vraiment dur, hein, on reçoit tous les gros, donc même quand il y a des réceptions à la maison, ça sera lourd, et le problème c'est qu'il faut chercher des points à chaque coup, donc moi je suis extrêmement pessimiste, même si j'ai pas pu voir le match ce vendredi, mais là on reçoit quand même le plus gros client de cette Pro D2, ça risque d'être quand même très compliqué.
Monsieur Fuentes, tu étais au micro vendredi soir, très triste copie rendue par Carcassonne.
Oui. Et c'était intéressant parce qu'en fait, le mot de la soirée, c'était un petit peu dynamique, les dynamiques des clubs. Effectivement, on avait un Soyaux Angoulême qui avait une dynamique complètement positive, et on les a vus avec un large sourire en interview d'après-match, très logiquement, parce que eux, ils avaient fait le match, hein, Soyaux, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, ce que nous expliquait et Christian Labitte et Etchetto, c'est que quand même la dynamique était d'un côté positive, de l'autre côté négative. Ouais. Et on sentait bien que, alors bien sûr, s'il y a une histoire d'hommes qui sont pas là, Carcas, qui sont blessés, tatati, on peut trouver mille excuses. N'empêche que Soyaux Angoulême est allé chercher des ballons, à jouer sur les extérieurs et à proposer un jeu, un plan de jeu.
Fred, tu as 30 secondes pour conclure là-dessus parce que tu sais que Vincent Etcheto, c'est un petit coquin. Et au micro de Luc Fuentes, il a casé, il a posé une petite mine, comme on dit, puisqu'il a dit en gros que peut-être qu'il fallait s'accrocher parce que, je reprends ces mots, ça risque de se jouer à un point ou deux points, on ne sait jamais. Avec la situation de Biarritz, on ne sait pas s'ils trouveront un repreneur. Il n'y aura peut-être qu'une seule descente de Pro D2. Alors, est-ce que Monsieur Etcheto, comme il en a l'habitude, fait de la provoque, ou toi, est-ce que tu as eu un peu d'infos en disant, mais pourquoi pas une seule descente, ou c'est juste une etchetade?
Ouais, non, mais c'est de la, bon, allez, c'est de la provocation. Moi, je pense que il essaye de se faire remarquer, mais les rumeurs à Biarritz, il y en a tous les ans, il y en a tout moment. Tantôt on dit qu'ils vont descendre, tantôt on dit il y a un problème financier, tantôt on dit il y a un problème avec la mairie, tantôt on dit bon, bref, on sait jamais trop avec le BO, mais moi je pense que le BO sera toujours présent. Et donc, Etcheto, il essaye de sauver sa peau comme il peut, mais toujours un petit peu, toujours limite avec la provocation, avec les arbitres, avec les juges de touche, avec ci, avec ça. Non, mais bon, c'est un personnage rigolo. Voilà.
Merci. Mais écoute, quand même, un petit mot. Moi, je le case. Hein. Il faudra compter aussi sur Montauban qui, franchement, ne fait pas une saison à la hauteur de son recrutement. Et moi, je continue à dire que Rouen n'est pas encore totalement sauvé dans cette course au maintien, parce qu'on parlait de dynamique avec lui tout à l'heure.
Ouais.
C'est pas terrible. J'en profite, puisque j'ai fait un signe, pour vous souhaiter à tous un très, très bon appétit. Et on se retrouve dans 15 jours sur RCF. Salut à tous et à toutes.